capitale de Boutichassa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mouima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi. La RDC, pays doté des potentialités naturelles, fait face à des défis énormes pour réaliser pleinement sa souveraineté économique. 65 ans après son indépendance, l'économie du pays est fortement liée aux exportations minières, une faible diversification de l'économie, un manque de gestion efficace et transparente des ressources du pays. La dépendance aux exportations minières rend notamment l'économie tributaire de fluctuation des prix mondiaux des matières premières. Par ailleurs, sur le plan interne, l'économie est de plus en plus dominée par des étrangers qui ont presque la même mise dans tous les secteurs économiques de la vie nationale. Certes, il y a des Congolais qui tentent de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais là également, les entreprises publiques et privées sont loin d'être compétitives sur le marché. Au mois de mai de l'année en cours, lors de son intervention Global Growth Conference organisée à Rabat au Maroc, le ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a déclaré que la RDC doit consolider sa souveraineté économique tout en se connectant aux espaces économiques régionaux tels que le corridor de Lobito. Il a évoqué une stratégie multidimensionnelle s'appuyant sur trois piliers, à savoir les infrastructures logistiques, l'indépendance énergétique et l'intégration régionale. Que pensez-vous de la souveraineté économique de la RDC 65 ans après l'indépendance? Votre chanson est bienvenue sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse PA@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones en 9 716 80 79. Debs Vita est à la mise en nom de ce magazine. Julie Feza Bongonda a sous la réalisation et la coordination. Paul Badianama est là pour l'équipe multimédia. Micro, c'est Marcel Gombala. À toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews.
Habitants de toutes les provinces, Paroles aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Paroles aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur les plateformes digitales de Radio Okapi, à savoir YouTube, X et Facebook. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets sur la souveraineté économique de la RDC. 65 ans après l'indépendance, nous aurons, comme chaque fois, l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions. Et pour parler de cette question de la souveraineté économique de la RDC, 65 ans après l'indépendance, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Maître Dieudonné Tshibobwa. Maître, bonjour.
Oui, bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, c'est encore un plaisir de vous retrouver. Vous êtes analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, Kanana, RDC, mais aussi au barreau de Bruxelles en Belgique. Voilà. Nous aurons également en ligne, si tout va bien, le professeur Godin Poy. Il est spécialiste en économie. Je rappelle le numéro, si vous voulez intervenir en direct, composez les zones en 9 716 80 79. Alors, maître, parlons de la souveraineté économique de la RDC 65 ans après l'indépendance. Quelle lecture faites-vous?
Marcel, d'abord, merci pour le sujet qui est très important. Très important, surtout à l'heure actuelle. Hein. Vous savez, récemment, il y a un projet d'accord, un accord qui va être signé dans les prochains jours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis sur les minerais stratégiques. Pourquoi je voulais préciser? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce futur accord. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord que nous puissions savoir qu'est-ce qu'une souveraineté économique. Avant de parler même de la souveraineté économique, j'aimerais rappeler à tous que le Congo a eu son indépendance politique le 30 juin 1960. Mais avant le 30 juin 1960, du 26 avril 1960 au 16 1960, il y avait une table ronde économique qui était organisée à Bruxelles. Et cette table ronde avait comme objectif de préparer, donc en marge de la dépendance politique, du pays, et préparer l'indépendance économique du Congo sur plusieurs aspects, aspects financiers, économiques et sociaux. C'était une préparation parce qu'on pouvait avoir l'indépendance politique, mais il faut savoir gérer le pays. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été donc abordées, plusieurs éléments, notamment les questions liées aux échanges commerciaux entre le Congo qui devenait indépendant et avec la Belgique, les questions liées à la fiscalité, les investissements, pas mal de questions étaient abordées. Et le 30 juin 1960, là, il y a eu maintenant l'indépendance politique. Et le Congo s'est pris en charge. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la majorité des Congolais n'étaient pas préparés à la gestion économique du pays. Parce qu'un pays se gère avec une certaine orthodoxie financière et une certaine méthodologie. Ce qui s'est fait que le fait de n'avoir pas été préparé nous a causé des ennuis, et j'en parlerai dans la suite de mes propos. Mais nous posons la question actuellement. Est-ce que le Congo peut dire que, économiquement, il est souverain? Mais qu'est-ce qu'une souveraineté économique? Quand vous regardez une définition simple, c'est simplement, c'est un système économique, c'est l'État qui doit pouvoir avoir le contrôle sur plusieurs sources d'approvisionnement qui sont capitaux, qui sont principaux pour son pays. L'État doit pouvoir, l'État, c'est l'autorité qui est de l'État, qui doit gérer et non pas se faire dicter une loi, mais dicter sa loi, dicter ses positions et influencer sur son économie. C'est ça la souveraineté économique de l'État. Et l'État peut le faire avec une prolongation de ses missions sur les autochtones, bien les originaires de ce pays, si je peux le dire entre guillemets. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Je vais prendre un exemple pour que les gens puissent saisir la portée. Récemment, vous avez suivi qu'il y a l'autorité des régulations sur les minerais stratégiques qui a pris la décision de suspendre l'exportation du cobalt. Parce que l'État congolais, c'est l'État, nous avons la plus grande production de production minière de cobalt dans le monde. On représente pratiquement 70%. Le fait pour nous d'avoir la même mise sur ces secteurs, qu'on a suspendu donc l'exportation, a eu un effet positif pour nous, bien évidemment, parce que le cours du cobalt a augmenté sur le marché mondial, vu qu'il devenait rare. Il y avait un stock, mais vu que nous avons pris la décision de suspendre l'exportation, et maintenant, le cobalt se fait désirer. Et donc, nous avons le pouvoir...
Mais justement, maître, quand vous parlez justement de cette exportation minière, c'est ce qui pose également problème, selon certains experts, et parce qu'on est attributeur des fluctuations des prix sur le plan mondial.
Je vais aller, ce n'est qu'un exemple pour que l'on puisse comprendre ce qu'on appelle la souveraineté, le pouvoir que l'État peut avoir sur certains secteurs.
Oui.
Maintenant, nous, au Congo, actuellement, notre plus grand, celui qui contribue, le secteur qui contribue le plus dans l'économie du pays, c'est le secteur minier. Là, je vais revenir à ce que je disais. Mais une économie doit être diversifiée. Le Congo, c'est un pays qui regorge beaucoup de potentialités. En tout cas, on peut dire que c'est un pays béni de Dieu, parce que tous les secteurs peuvent être exploités et permettre au pays d'aller de l'avant. Le secteur agricole, le secteur minier, et tout autre secteur. Le Congo a cette potentialité-là. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Malheureusement, le Congo, il y a ce contraste entre ce que nous avons comme potentialité et ce que nous vivons dans ce pays. Lié certainement à un problème de gestion, parce que les hommes ne sont peut-être pas préparés suffisamment, ou bien il y a un problème simplement de compétences. Allez, on devrait définir les raisons. Et ce n'est pas normal qu'actuellement, que le Congolais lui-même ne bénéficie pas de ses potentialités parce que l'État, malheureusement, dans certains secteurs, a perdu le contrôle. Il y a des secteurs, il y a des pans entiers de certains secteurs économiques qui ne sont plus sous le contrôle de l'État congolais et encore moins des Congolais. Je crois que j'ai eu l'occasion.
Là, vous faites allusion peut-être à l'éterne ou à les étrangers ont la même mise.
En éterne et en externe. Je crois qu'on a fait une émission aussi il y a quelques temps où je vous ai parlé de 3-4 secteurs où l'État congolais n'a pas la même mise, et encore moins les Congolais. Les secteurs bancaires, le secteur de la télécommunication, le secteur de l'agro-industrie, et je peux en citer tant d'autres. L'État lui-même n'a pas la même mise. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Et l'État n'a pas promu les Congolais eux-mêmes. Il y a quelques Congolais qui essaient de s'en sortir de self-made men, mais sans plus. Parce qu'il y a tout un système, un écosystème qui ne permet pas aujourd'hui et aux Congolais d'avoir une certaine efficacité ou bien d'avoir aussi une certaine possession de certains secteurs. Et aussi le fait que, malheureusement, le Congolais lui-même n'est pas fier de ce qu'il peut avoir comme potentialité pour être souverain économiquement. D'où nous dépendons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir que je parlais d'un secteur bancaire. Toutes les banques aujourd'hui, je peux dire toutes les banques, il n'y a aucune banque qui est en majorité capitaux congolais. Même l'État. L'État lui-même, dans le secteur financier, n'a pas de contrôle. Parce que tout est entre les mains des étrangers. D'où on a perdu une souveraineté économique dans le secteur bancaire. De même dans le secteur des télécommunications, qui est un des secteurs florissants, qui est très important. L'État n'a pas non plus la même mise. Donc nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que l'État congolais doit faire? Et que doivent faire les Congolais pour retrouver même une apparence de souveraineté?
Mais c'est la grande question. Dites-nous, qu'est-ce qu'il doit faire?
La première piste, nous avons une faiblesse. La première faiblesse que nous avons dans notre niveau, c'est que notre niveau éducatif, notre système éducatif, est plus axé sur la bureaucratie, mais très peu sur l'entrepreneuriat. C'est contrairement au système anglo-saxon. Nous avons un système hérité de l'État colonial, et les Congolais, eux, s'identifiaient à la réussite pour eux, c'était d'être dans un bureau. Très peu pouvaient imaginer qu'un artisan peut être une force économique. Un artisan peut, bien même un agriculteur peut représenter une force économique. Donc notre système éducatif doit être refait, devoir être pragmatique. Comme j'ai toujours dit, ici, je crois que nous sommes parmi les plus grands pays au monde des producteurs de chômeurs universitaires. Parce que honnêtement, autant du diplôme universitaire pour très peu de places au niveau administratif, alors qu'il y a des questions pratiques aujourd'hui avec l'avènement de nouvelles technologies. Il y a des jeunes, même des personnes plus âgées, qui sont des geeks, qui ont cet atout.
Donc ça, c'est la première piste. Il faut renforcer la formation professionnelle.
Je suis en train de système éducatif. Oui. Deuxièmement, c'est un problème au niveau de la gestion. Ok. C'est un problème de chaque individu. Quand vous avez un poste de responsabilité, il faut être un bon gérant. Il faut respecter votre engagement. La difficulté, c'est malheureusement des mauvais gestionnaires. Liés à quoi? Liés à notre situation politique. Je prends un exemple. Vous avez des grandes sociétés de l'État, des entreprises publiques, qui à l'époque coloniale, des entreprises qui étaient florissantes, et lorsqu'on a passé la main aux Congolais, donc pour qu'elles même les Congolais puissent même diriger ces entreprises, beaucoup de ces entreprises aujourd'hui,
de l'organisation,
bien évidemment, ces entreprises maintenant sont gérées par les Congolais, et le problème de management fait défaut. Pourquoi? Parce que notre management est essentiellement politique, et ça, c'est un péché qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir des grandes sociétés, de grandes entreprises publiques avec des grandes capacités, et vous donnez le management à des personnes qui n'ont pas l'expérience. Donc le profilage est très important pour pouvoir gérer certains secteurs, certaines entités qui sont importantes pour l'économie du pays. Donc ça, c'est un autre problème. Et troisième piste, c'est qu'il faut qu'il y ait une justice sociale qui s'implique, avec l'implication de l'autorité. Qui fait quoi? Qui sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles qui sont mises en place. Donc l'impunité est un problème. Parce qu'il y a des gens qui sont à la base de la désuétude de l'État, ces personnes doivent pouvoir être sanctionnées. Donc là, je conclue pour dire que c'est un problème de bonne volonté, simplement de l'État, pour pouvoir justement aider le pays à pouvoir se mettre en place et à se réguler. Je peux donner tant d'exemples.
Tout à fait, ça c'est vrai, mais il faut qu'on avance, mettre la quatrième piste.
Mais la quatrième piste, si je peux me prononcer, c'est que il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec une vision claire, définie et des contrats de performance si je dois revenir dans le cadre de l'entreprise publique de l'État. Et ça, c'est très important.
Ça, c'est très important. Maître, on revient à vous. Il est temps pour nous d'accorder également la parole à un autre invité qui est en ligne. Il s'agit du professeur Godin Poy. Professeur Godin Poy, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci.
Bonjour.
Ouais, merci d'avoir... accepter notre invitation pour parler de la souveraineté économique de la RDC 65 ans après l'indépendance. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie. Qu'est-ce que vous faites comme analyse de la souveraineté économique de la RDC 65 ans après l'indépendance? Vous avez suivi, j'imagine, l'invité qui est au studio, maître Dieudonné Tshibwabwa, qui a en tout cas estimé qu'on a connu beaucoup de faiblesses tout au long des 65 ans simplement. Il avait un problème des gouvernances, il y avait un problème, par exemple actuellement, de la mainmise des étrangers sur l'économie de la RDC. Il y avait aussi surtout ces problèmes liés à l'indépendance de la RDC avec tout ce qui est exportation minière, qu'il faut absolument diversifier l'économie. Professeur Godin Poy.
Merci, je salue maître et j'apprécie à juste titre la qualité de son intervention. Mais le petit bémol, c'est qu'il y a des épisodes. Globalement, je suis d'accord avec maître. Mais lorsque vous interrogez l'économie congolaise, vous verrez qu'en 1960, avec une démographie de 14 millions d'habitants, on avait un PIB de 3,6 milliards avec un budget de 95 millions de dollars. Et à ces jours, on a un budget de 17 milliards avec un PIB qui avoisine 80 milliards de dollars. Mais cette fois-là, avec une démographie de plus de 100 millions d'habitants. Donc, quantitativement, les choses ont évolué, mais au regard de la démographie, on peut dire que le bilan il est mitigé. Et c'est ainsi pourquoi il est mitigé. De 60 à 65, avec le chaos politique qui avait suivi, le système économique était totalement désarticulé. Et c'est ainsi que vous allez voir que, en 1965, avec la convention Tshombe-SPAC, le maréchal Mobutu va obtenir le retour des sièges sociaux de toutes les entreprises qui étaient installées en Belgique. 1966, loi Bakajika. 1967, réforme monétaire avec au bout du bout les Aïr Monnaie, qui était plus lourd que les dollars à l'époque. 1969, nous avons notre code des investissements le plus libéral. 1970, c'est la création de la SOFIDE. Et du coup, vous allez voir qu'entre 69 et 70, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été créées, notamment Sotheby's, Cadel, Goodyear et Jean Prince et Demeyer. Mais malheureusement, c'est à partir de 1973 que l'azérianisme va nous amener des problèmes. Donc, nous avons connu 73 azérianisation, 74 radicalisation, 75, c'était la restitution des entreprises à leurs propriétaires. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que nous commençons à tomber dans la dèche d'une manière telle que les premiers programmes que nous avons, nous, avec le Fonds monétaire international de 1967 à 1970, évidemment, il n'a pas été exécuté tout simplement parce que les cours des métaux rouges s'étaient améliorés et que nous-mêmes, les Aïrs, nous avons été classés parmi les donateurs du Fonds monétaire international. Donc, lorsque nous allons prendre l'argent au Fonds monétaire, nous n'allons pas faire la manche. Non seulement que nous en sommes membres, mais par membre, à un certain moment de l'histoire du monde, nous avons été classés par les donateurs. Et c'est depuis l'azérianisation que notre malheur a commencé d'une manière telle que jusqu'en en 2001, nous avions un taux de croissance qui était négatif. Et ce taux de croissance redevient positif à partir de 2002. Nous sommes passés par les DCRPI, DCRP1, DCRPD, PIR, PEG1, PEG2. Et ce qui fait que depuis 2002, notre taux de croissance a été positif, mais malheureusement, au même moment, pendant que le taux de croissance économique est positif, il n'était pas supérieur au taux de croissance démographique. C'est ce qui fait que la population n'arrive pas à ressentir les vrais effets de ces efforts. Mais la bonne nouvelle, qui est une nouvelle bonne pour nous, c'est que depuis l'indépendance de la RDC, c'est seulement en 2021 que l'actuel président a noué un programme de référence avec les fonds monétaires et ce programme a été concluant. Donc, on peut dire que le bilan il est mitigé et je suis totalement d'accord avec Maître. Mais si le bilan est mitigé, nous devons reconnaître quand même les efforts qui ont été fournis surtout ces derniers temps. Donc, fin 1918, nous avons un PIB de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 80 milliards de dollars, dont la vitesse de croissance est tellement importante qu'on doit reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits.
Donc, professeur, vous dites, oui, vous dites qu'il y a eu des efforts qu'on doit reconnaître, mais de tout de même, le bilan est mitigé. Mais pour avant d'accorder la parole aux auditeurs, alors pour renforcer rapidement l'attendant, professeur, quelles sont les grandes pistes, en principe, qu'on devait essayer d'explorer?
Oui, la diversification de la production a des contraintes. Un peu comme on dit en économie, nous devons maximiser mes sous-contraintes. Donc j'entends les gens parler de la diversification de l'économie, mais ça ne se décrète pas. Il y a des obstacles majeurs qui plombent en fait la diversification de l'économie congolaise. C'est le déficit énergétique et c'est le déficit également bancaire. Donc vous n'allez pas diversifier l'économie tant que vous n'avez pas une électricité permanente et stable.
Oui.
Donc il faut d'abord travailler notre barrage d'Inga, qui pour moi représente la grande richesse de la RDC. Et aujourd'hui, nous avons un déficit bancaire. Donc lorsque vous interrogez le monde, il y a des modèles de développement. L'Occident s'est développé grâce au système bancaire. C'est ce qui fait que pendant la COVID, l'Union européenne a pu s'endetter à la hauteur de 750 milliards de dollars. Et cet argent sera remboursé jusqu'en 2058. Mais il y a l'Asie qui a opté pour les PPP. Donc aujourd'hui, les salis pour la République démocratique du Congo, c'est les partenariats public-privé. Malheureusement, que chez nous, dès que les mandats changent ou les régimes changent selon les cas, ceux qui viennent ont tendance à rejeter tous les engagements pris. Et ça ne va pas nous faciliter la tâche de faire les PPP si on ne sait pas respecter les engagements qui ont été pris. Donc si nous voulons diversifier notre économie, commençons par résoudre les préalables énergétiques et bancaires.
Voilà, c'est cela, quelques pistes à explorer pour vraiment résoudre le problème économique de la RDC. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui de la souveraineté économique de la RDC, 65 ans pour l'indépendance avec nos deux invités. Nous avons ici au studio Maître Dieudonné Tshibobo, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, Kananga, RDC de Bruxelles en Belgique, mais aussi le professeur Godin Poy qui est en ligne, il est spécialiste en économie. Si vous voulez intervenir, composez 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi, mais aussi Marie-Paul Awa qui est à Kisangani. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel et bonjour à Maître.
Allez-y.
Dieudonné Tshibobo et professeur Mpoudi.
On vous écoute.
J'ai suivi la thématique LR dans le titre. Je salue leur pertinence et leur reconnaissance. Tous nous sommes d'accord que 65 ans après l'indépendance, surtout l'aspect économique, le bilan est négatif. Moi, je pense que le bilan est négatif. Je ne vais pas aller dans les statistiques mathématiques fictives, je ne suis pas mathématicien. seulement que lorsqu'on parle de la diversification économique, les grands points que j'essaie de noter ici, on parle également de soutenir la culture des transformations également agro-industrielles. Au professeur Godin Poy, en sa qualité de l'autorité budgétaire, l'une des têtes pensantes de la commission écoutée.
Maître Patrick Odia, je ne sais pas si vous êtes en mouvement, il y a un bruit désagréable tout au long de votre intervention. Vous êtes en mouvement, essayez de vous arrêter un petit un moment, le temps de votre intervention.
Oui, oui. Je disais que le professeur Godin Poy est l'une des têtes pensantes de la commission ECOFIN, avec tout son parcours, mais lui en tant qu'autorité budgétaire. Et lorsqu'on parle de la diversification de l'économie, on voit l'axe agriculture ou agro-industriel. Est-ce qu'à ces jours, peut-il nous dire, lui en tant qu'autorité budgétaire, combien a-t-il alloué au budget l'agriculture ou agro-industriel? Parce que lorsqu'on parle de l'agro-industriel ou on parle de la diversification économique, nous ne pouvons pas nous en passer sans parler de... j'allais dire de l'agriculture. Ça, c'est le premier point.
Oui.
Le deuxième point également, c'est investir dans les secteurs à fort potentiel, notamment les numériques, les tourismes et l'énergie. Est-ce que la RDC a-t-elle des infrastructures énergétiques capables de pouvoir booster son économie industrielle? Parce que lorsque je vais descendre en bas, je vais parler également de la transformation locale des ressources minières. Nous avons une économie qui est dépendante aux exportations minières. Alors que nous avons 4 millions ou 80 000 hectares d'arables et tout ce qui va avec, les techniciens vous en diront également, mais l'agriculture est laissée comme étant orpheline. Avec un budget minimum et pas même, je le dirais même un budget honté. Lui, en tant qu'autorité budgétaire, je pense qu'il a une responsabilité de pouvoir nous préciser combien a-t-il alloué la session passée et combien il pense allouer à la session prochaine pour combler, parce qu'il faut également qu'on ne puisse pas seulement parler, mais qu'on puisse également proposer la session budgétaire qui vient ou qui viendra, quelle est l'autorité, quel est le pourcentage qu'on va accorder à l'agriculture allant dans le sens des efforts de diversifier l'économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, Marcel,
pour éviter la dépendance
des exportations minières. Je pense qu'il faut qu'il y ait une loi, si pas dans les codes miniers qu'il soit modifié ou révisité, qu'on impose un peu des transformations locales. À un quota, par exemple, on dit les minerais exportés, mais peut-être à 37%, à 67%, à 55%, ça dépendra d'une convention, d'une autre également, pour que ces minerais soient transformés localement. Cela produira la main-d'œuvre. Cela produira également des infrastructures énergétiques et aussi des infrastructures routières qui permettront de faire évacuer également ceux qui seront produits localement également.
Merci beaucoup, Patrick. Oh, je pense qu'il faut s'arrêter là avec vous parce qu'il faut qu'on avance et puis c'était un échange. Hein. Lorsque je reprends la parole et prenez quand même le temps de m'écouter pour recadrer certaines choses ou bien faire un petit commentaire pour nous permettre d'avancer. Merci, Maître Patrick Odia, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Marie-Paul Awa, vous êtes à Kisangani. Marie-Paul, vous avez la parole. Vous m'entendez, Marie-Paul?
Oui, je vous entends. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vos invités.
Voilà, Marie-Paul, s'il vous plaît, oui. Ne revenez pas sur ce qu'a dit Maître Patrick, qui a insisté sur la diversification de l'économie qui passe par le domaine agricole, qui a parlé également du secteur bancaire, mais aussi d'investir dans les secteurs comme le tourisme. Et si vous avez des ajouts, allez-y.
Merci beaucoup. Toutes choses égales par ailleurs, dit-on.
Oui.
Je pense que après une analyse micro et miso et macroéconomique de la situation de notre pays, il est certainement vrai que la vraie richesse pour notre pays, j'ai entendu vos invités, la vraie richesse pour notre pays, c'est bien évidemment les secteurs agricoles, comme vient de dire Maître Patrick Odia, mais aussi c'est les secteurs hydrologiques, c'est-à-dire que l'eau peut aussi servir la RDC comme les leitmotifs et comme les self-power. Alors, si on est dans la situation que nous connaissons dans notre pays, si c'est parce que la RDC ne cesse de compter sur les minerais, parce que tout le monde ne veut que se lancer dans ce système de minerais, alors que nous le savons, c'est un débat un peu très longtemps, nous le savons certainement bien que les minerais, c'est parmi des choses qui qui enfantine un peu les pays par rapport à toutes les logiques. Et ce point de vue-là, je trouve, à mon humble avis, que le bilan qu'on peut établir 65 ans après l'indépendance démontre que la RDC est en train de régresser sur le plan économique. Pourquoi cette régression? C'est parce que, comme je viens de dire, l'organisation de l'économie en RDC relève bien évidemment de la logique colonialiste. Nous ne cessons jamais d'appliquer une économie que nous avons héritée de l'impérialisme, que nous avons héritée de la colonisation. Et du coup, nous avons des problèmes à nous adapter et nous nous versons dans les secteurs qui nous mettent mal par rapport à avoir la même mise, parce que nous avons des choses qui ne nous laisse pas à l'aise pour que notre économie puisse contribuer, puisse créer des voies et moyens, en fait, d'engager les gens, mais aussi de pouvoir aménager les paniers managers des citoyens. Et voilà pourquoi, à mon sens, je trouve que si on veut rompre avec cette impasse, la RDC doit investir dans ces deux secteurs. Quand je parle de l'investissement, je ne voudrais pas ici qu'on revienne sur les mêmes choses pour la simple et bonne raison que non, écoutez, nous avons mis en place une politique qui est en train de produire ses effets. Non, nous devons faire un grand investissement dans ces deux secteurs, c'est-à-dire les secteurs de l'agriculture, mais aussi les secteurs de l'eau.
Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit, les secteurs de l'eau et le secteur de l'agriculture. Merci Marie Polawa d'avoir appelé depuis Kisangani. Gloudi Boganga, vous êtes à Kinshasa. Gloudi, on vous écoute.
Merci pour la parole accordée. Moi, je pense que quand vous observez 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo est à genoux économiquement parlant. Si vous regardez dépend de l'étranger. Mais aussi du fait qu'on a oublié certains secteurs, notamment les secteurs agricoles et les autres secteurs, c'est par là que nous sommes en train de vivre. Mais pour pallier à ça, il faudrait en amont faire les études de préalable et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand vous regardez à l'époque coloniale, la République démocratique du Congo était parmi les pays portateurs de plusieurs produits agricoles sur le marché international. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur les classements mondiaux, on n'existe presque plus. Moi, je pense que le professeur Godin Poi peut expliquer ça d'une manière en tant que professeur d'université. La République démocratique du Congo actuellement produit absolument rien du tout sur le marché international. Alors, c'est possible qu'on puisse reprendre encore quand on était à l'époque coloniale. Il faut absolument répondre à la production, nous devons valoriser nos produits agricoles, les différents produits de notre pays, et ça va nous faciliter la tâche à commencer à exporter les différents pays au marché international. Voilà. Et on peut rémunérer l'argent dans le pays, et ça peut stabiliser l'économie. C'est fini. Il n'y a pas de magie à faire.
Merci Glody. Vous insistez sur la revalorisation de nos produits agricoles. Merci. C'est encore un aspect de plus. Il y a ceux qui ont parlé de problèmes bancaires énergétiques. Il y a également celui qui vous a précédé, Marie Polawa, qui a parlé du secteur de l'eau et qui est revenu également sur l'agriculture. Et vous pensez également qu'il faut valoriser nos produits agricoles. On va poursuivre avec d'autres auditeurs. Il est temps pour nous d'avoir quand même des réactions de nos invités par rapport à ces premières réactions des auditeurs. On commence par celui qui est au studio, Maître Dieudonné Chibamba. Votre réaction.
Oui, je pense que les réactions sont à prendre avec beaucoup d'attention, considérer ce qui est dit. Ce qui n'est pas faux, c'est que une économie diversifiée ne s'improvise pas. Il faut qu'il y ait toute une méthodologie pour ça. Et c'est là où il y a l'implication de l'État, parce que c'est l'État, c'est le gouvernement ou bien le pouvoir exécutif qui définit les lignes directrices. Il y a plusieurs secteurs, comme on l'a dit, on ne s'improvise pas dans le secteur agricole. Pour avoir un secteur agricole, il faut former des agriculteurs, il faut investir dans l'agriculture. Et il faut mettre en place des règles qui vont favoriser le secteur agricole et trouver moyen de financement. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, quand l'État mais vous savez, des États qui disent, ok, non, nous axons notre effort sur l'agriculture, ils mettent en place des structures de financement.
Non, pas du budget alloué à l'agriculture qui n'est pas considérable, non, d'après Maître Patrick.
Bon, il faut voir ce qui est alloué actuellement, mais ce n'est pas aussi considérable parce qu'on a un problème de déficit au niveau de l'agriculture. On a un problème de déficit même en personnel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui devaient normalement être à l'intérieur du pays pour s'occuper de ce secteur se retrouvent dans la capitale. Parce que c'est un secteur que les gens ne voient pas l'important du secteur agricole, alors qu'il y a des grandes économies comme en Chine, on met l'accent sur l'agriculture. Il n'y a pas tant d'autres exemples. Mais ce que je veux dire, au niveau de la diversification, ça c'est le choix que nous devons porter. Quel est le choix? Quelle est la ligne qui est mise en place par l'État? Vous savez, il y a des pays qui mettent l'accent sur les secteurs bancaires. Vous savez, des micro-États comme Monaco ou la Suisse, qui mettent l'accent sur ce secteur qui est producteur. Ils ont un soft power sur ce secteur dans le monde. Ça, c'est au niveau de nos choix. Mais comme je l'ai dit, le problème n'est pas tellement au niveau des règles. Moi, j'insiste, le problème, c'est au niveau des personnes qui doivent mettre en place. Le mot du choix, du profil.
Des hommes qu'il faut à place, qu'il faut vous insister beaucoup
sur
par rapport à ça.
Parce que, pourquoi? Parce qu'au Congo, nous sommes victimes de la géopolitique, de la géostratégie. Aujourd'hui, la compétence au Congo est mise en brèche parce qu'on doit privilégier certainement la géopolitique ou privilégier certains intérêts. Mettons en place ces compétences. C'est ça ma
plaisir. Vous aimez beaucoup insister par rapport à ça, les compétences. Je veux revenir à vous. Il est temps pour nous d'écouter également le professeur Gaudin Poy. Professeur, vous avez également suivi les réactions de premiers auditeurs à vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'apprécie à juste titre les réactions de tout à l'heure. Là, je vois Maître Tshiboba qui est avec vous, je vois Patrick de Lubumbashi, je vois Marie-Paul, je vois tous les amis qui sont intervenus. Mais je voudrais apporter une précision ici, que nous parlons de l'économie, nous ne parlons pas du développement. Ce sont deux matières différentes. C'est vrai que moi-même je suis contre les formules des chiffres, mais les gens doivent savoir que l'économie est par essence chiffréiste. La seule unité de mesure en économie, ça reste les chiffres. Quand les chiffres avancent, c'est ce qui nous permet de dire que le bilan est mitigé. Mais les jours où on va parler du développement, là nous allons parler d'un échec. Donc, que les gens n'oublient pas que dans ces pays, nous avons un plan national stratégique de développement conçu depuis 2015, dont l'actuel président a eu le mérite d'actionner la première phase, et que d'après ce plan, la République démocratique du Congo sera un État développé en 2050. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts, mais l'économie fonctionne sur base des principes. Si nous nous référons aux chiffres, c'est parce que nous parlons de l'économie, mais nous ne parlons pas encore du développement. Là, on est totalement d'accord qu'il y a des soucis. Je suis tout à fait d'accord. Le problème gouvernementiel est réel, notamment par rapport au profil, comme Maître est en train de le dire, parce qu'en fait, l'unité de mesure sur la terre des hommes devait être rabotée par la compétence. Et les amis qui ont suggéré, et l'agriculture, et l'hydrographie, ont totalement raison. Mais il y a des choses qu'il faut préciser. Aujourd'hui, comme... si je ne m'abuse, c'est Maître Patrick qui l'a dit. Aujourd'hui, lisez notre budget de l'État. Donc, nous sommes dans les critères de Maputo. On a l'allocation aujourd'hui, c'est plus de 10%. Mais ce que les gens oublient, c'est que dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'État qui produit. L'État crée les cadres. C'est ça l'économie sociale du marché. Nous avons une loi spéciale sur l'agriculture de 2011. Cette loi, à son article 6, oblige en fait aux investisseurs, étrangers de s'associer aux nationaux et que les nationaux devaient être des actionnaires majoritaires. Mais malheureusement, l'évolution du droit comptable international, notamment le droit de l'OADA, est venue contredire ces trois pour dire que ne peuvent être actionnaires majoritaires dans des entreprises que ceux qui ont apporté le plus d'argent. Et c'est cette disposition-là qui bloque les investissements directs étrangers dans le secteur agricole. Nous avons déjà fait des propositions pour que la loi sur l'agriculture soit modifiée. C'est à ce moment-là qu'on doit attirer les investissements dans le secteur agricole où le potentiel est très énorme avec 80 millions d'hectares de terres arables. S'agissant de Marie-Paul qui a fait des propositions sur notre hydrographie, je suis totalement d'accord avec lui, mais là, il faut prendre des précautions. Des précautions parce que lorsqu'il faut exporter l'eau douce, je suis totalement d'accord avec lui. Lorsque vous lisez notre tarif douanier, vous verrez qu'il est déjà prévu qu'on peut exporter l'eau douce en RDC. Mais nous devons tenir compte des conséquences environnementales. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes sérieux, mais lorsqu'il y a quand même des progrès, nous devons les reconnaître tout en sachant que nous parlons de l'économie et nous ne parlons pas du développement. Personnellement, je suis satisfait de la pertinence des avis des uns et des autres et nous en prenons en considération pour voir dans quelle mesure influencer nos politiques publiques dans les prochaines années.
Voilà, pour ça, avant de poursuivre avec deux autres auditeurs, je vais rapidement lire cette réaction de Chrysostome Lébécois depuis Haro. Son 5 ans pour l'indépendance, la République démocratique du Congo reste encore loin de maîtriser pleinement son destin économique malgré un sol, un sous-sol exceptionnellement riche. Les pays continuent de dépendre essentiellement des exportations minières avec une économie fragile, peu diversifiée et fortement exposée aux variations des prix internationaux. L'exploitation des ressources naturelles ne profite que très peu aux populations et la domination étrangère dans les secteurs clés accentue ces déséquilibres. Les Congolais eux-mêmes peinent à s'imposer dans leur propre économie, que ce soit à travers l'entrepreneuriat ou la compétitivité des entreprises nationales, publiques comme privées. Une autre réaction, c'est Steve Bagoré qui nous dit « J'en sais qu'après l'indépendance, la souveraineté économique de la RDC reste encore largement complète et fragile. La corruption, l'impunité, l'instabilité juridique et le conflit armé dans l'est du pays fragilisent l'investissement et la souveraineté économique. Malgré son immense potentiel, la RDC reste sous tutelle économique de fait. Pour gagner en souveraineté, devoir renforcer ses institutions, diversifier son économie, contrôler mieux ses ressources et investir dans le capital humain. » Voilà, ça c'est Steve Bagoré. Depuis Bukavu, on revient au standard pour écouter Sylvain Aguenov qui nous appelle depuis Mahagi. Sylvain, vous avez la parole. Sylvain, vous êtes en ligne depuis Mahagi. On vous écoute, Sylvain. Allez-y.
Oui, vous m'entendez?
C'est bon, allez-y, on vous attend. Vous avez la parole, on vous écoute, allez-y.
Bien, merci. Je dis seulement trois choses. Quand on parle de l'économie, il y a des règles et des principes. Il faut aussi tenir compte du modèle économique mis en place par un pays, par une nation. Depuis les indépendances, quels sont les systèmes économiques que nous avons mis en place? J'ai suivi de manière entrecoupée l'invité intervenu, parce que la radio Capi n'est même pas là où je suis. Mais je me dis, le problème se situe au niveau de la désintégration des facteurs économiques congolais. Sur base de quels facteurs l'économie congolaise est assise? Un grand économiste comme Mouzito, qui fut premier ministre, Matata Ponyo, qui fut premier ministre, ils vous le diront. Lorsque une nation base son économie sur la prédation minière et l'abandon du secteur agricole, comment voulez-vous que ce pays ou cette économie soit stable? Je n'ai pas suivi ce qui est intervenu avant moi. Mais j'ai dit au deuxième niveau de mon intervention,
oui,
une économie qui oublie sa base qui est l'agriculture, je ne suis pas physiocrate par les principes de la théorie économique, pour regarder une population qui ne sait pas manger trois jours, de quelle économie parle-t-on? Je suis à Kinshasa de temps en temps. Je vois déjà à midi prendre les arachides, l'eau sucrée.
Voilà, excusez Sylvain, on retient pour vous la prédation minière et l'abandon du secteur agricole n'est pas. On n'a plus assez de temps. Alors vous avez 30 secondes parce qu'il ne faut pas tirer en longueur. Vous avez 30 secondes, allez-y.
À 30 secondes, oui. Le troisième point que je souligne, oui. Il faut restructurer et replacer chaque facteur économique à sa place pour relancer l'économie de ce pays. Et c'est ça le grand travail que tout politique doit faire.
Voilà, merci beaucoup Sylvain Ganov de Pima Gavant pour le tout dernier. Amos Bissimo et plus avant de permettre de conclure avec nos deux invités. Amos Bissimo, vous nous appelez depuis Bouka, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes Amos, allez-y.
Merci Marcel, je pour les auditeurs de la radio au Capi. En fait, je suis totalement d'accord avec mon prédécesseur que l'économie congolaise demeure une économie extravertie. Elle n'a jamais été indépendante. Pourquoi je le dis? Cela émane du fait que depuis 60, nous avons toujours connu un leadership sans vision. Un leadership parachutiste. Et voilà où ce leadership a amené le pays sur le plan économique. On cesse de le dire. Plus de 65 ans après l'indépendance, nous continuons à mendier même des beignets du piment à l'étranger. Et à longueur de journée, nos politiciens, vous avez des terres arables, ils peuvent nourrir toute l'Afrique. On ne peut pas asseoir son économie sur des minéraux théoriques. Mais tous les Congolais apprennent que nous avons des cobalt, des cuivres, tout. Au moment où, sur le plan pratique, il n'y a rien, et que ce sont des étrangers qui profitent de nos minéraux contre le peuple congolais. Voilà, moi, j'ai cessé de le dire, oui. Le problème du Congo, c'est le problème de gouvernance.
Voilà, merci Amos, vous insistez sur le problème de gouvernance, selon vous, c'est ce qui fait que la RDC n'arrive pas à ce jour vraiment à consolider sa souveraineté économique. Merci Amos Bissimo d'avoir appelé depuis Bukavu. Je reviens à vous, Maître Dionne Chimoba, vous allez réagir par rapport à cette deuxième vague d'intervention et puis ça sera votre conclusion.
Voilà, en tout cas ce qui me fait plaisir, c'est de remarquer qu'il y a quand même une conscientisation, une volonté de chacun. Moi, je vais être clair. Le problème du Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais. Voilà, il n'y a même pas. D'abord, le Congolais doit pouvoir se faire respecter. Si nous-mêmes, en tant que Congolais, nous respectons notre État, c'est ce qui permettra aussi à ceux qui viendront, les étrangers, de respecter l'État. Alors, pourquoi je dis ça? Au niveau de la politique, je crois que tout le monde l'a si bien dit, c'est la politique ce qui va définir les grandes lignes, les grands axes à adopter dans tous les secteurs. Primaire, secondaire, tertiaire, tout ce qui s'en suit. Mais même si on définit les grands axes, il y a des règles qui sont mises en place qui doivent être respectées par nous-mêmes. Okay? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voyons notre faiblesse, voyons nos déficits au niveau de l'homme congolais. L'étranger profite. C'est-à-dire qu'il y a une instabilité qui est créée, parce que cette instabilité profite plus à l'étranger qu'au Congolais. Et moi, je vais faire un appel patriotique. D'abord, dire à tous les Congolais de nous battre ensemble, unis. Dans la main pour que le pays retrouve d'abord sa stabilité. Parce que tant il n'y a pas de stabilité, il n'y aura ni développement, ni avancée, il y aura même la souveraineté économique, on aura du mal à l'avoir. Tant nous allons retrouver notre stabilité, avec le soutien, évidemment, de nos partenaires extérieurs qui aimeraient soutenir cette stabilité, et les Congolais de bonne volonté, là on peut commencer à avoir des projets à court, moyen, long terme. Et nous pouvons maintenant fixer les secteurs clés où nous voulons. Lesquels nous allons démarrer pour promouvoir notre économie et aussi pour avoir cette souveraineté réellement économique tout en mettant l'homme congolais au centre.
L'homme congolais au centre, vous insistez beaucoup par rapport à ça, Maître. On revenir certainement une autre fois sur l'émission Comment transformer l'homme congolais. Merci, Maître Chibwa. Je rappelle que vous êtes analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, Kanara, RDC et de Bruxelles en Belgique. Je me tourne vers notre deuxième invité également. Il va intervenir, ça sera sans conclusion, professeur Godin Pouy. Vous avez 2 minutes pour réagir, ça sera votre conclusion. Vous écoute, professeur.
Merci, Marcel. J'ai persisté et je signe. On ne peut pas nous interdire de recourir au secteur minier parce que c'est notre avantage comparatif. Donc ce sont des principes économiques, mais je suis tout à fait d'accord que nous devons maintenant nous diriger vers d'autres secteurs. Et je vous ai fait voir les préalables qu'il y a. Aujourd'hui, là, quel est ce Congolais qui a suffisamment d'argent pour exploiter ces 80 millions d'hectares de terres arables? Ça, ce sont des problèmes. Il est vrai que c'est nous, les dirigeants, qui avons la grande responsabilité. Mais moi, je vous pose la question. Dans nos administrations, il y a des gens qui se font corrompre. Je ne pense pas que ces gens-là soient envoyés par les politiciens. Pendant les élections, il y a des gens qui ont les meilleurs profils qu'on ne vote pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné l'argent. Je ne pense pas vraiment que ce sont les politiciens qui disent à la population de faire ce genre de choses. Donc la responsabilité est partagée, même si la nôtre est plus grande. C'est ainsi que, pour moi, je développe une théorie que j'appelle l'impôisme. Si aujourd'hui nous voulons que ce pays change, il y a trois choses qu'il faut faire. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Mais pour moi, je suis très heureux d'avoir pris part à ce débat. Les interventions ont été de haute facture. Nous en tiendrons compte pour la suite de notre action politique. Vraiment, mille bénédictions à vos auditeurs ainsi qu'à toute la radio Capi.
Voilà, merci beaucoup professeur Gordin Poy. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que prochainement vous allez vraiment à nous faire ce plaisir de venir dans nos studios. Bonne journée à vous.
Avec plaisir, Marcel.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de production. Je pense à Debs Vita qui a la mise en onde de ce magazine, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné, mais aussi à Paul Badianyama qui est là pour l'équipe multimédia. C'est grâce à lui que vous avez pu suivre ce magazine en direct sur le plateforme digitale des Radio Capio. Au micro, c'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fleur de la paix et surtout, prenez soin de vous.